reste au niveau de la projection et du fantasme mental. Je ne critique pas cet état de choses. Nous laissons chacun être ce qu'il peut être. Mais nous sommes déçus d'entendre ensuite ces gens critiquer ceux qui travaillent ou bien simplement s'asseoir en disant que ce sont les autres qui doivent accomplir le travail parce que ce sont les autres qui ont le pouvoir. Alors que ce qui les empêche d'avoir le pouvoir, c'est justement parce qu'ils utilisent leur énergie à faire des rêves et des projections dans le mental inférieur. Alors, revenons un peu sur terre, quitte à ne plus voir très clairement l'idéal divin. Mais soyons suffisamment sur terre pour que le peu d'idéal que nous puissions contempler s'effectue véritablement. À moins de cela, il ne peut pas y avoir d'évolution. C'est pourquoi, dans les mouvements d'avancement, il y a toujours une armée de rêveurs. Ensuite, quelques personnes capables de conceptualiser de façon assez juste, mais qui n'osent pas encore passer à l'action. Ils sont des cerveaux, simplement. Alors ils écrivent ou ils parlent. Et puis il y a ceux qui sont, quelque part, un peu pionniers et qui commettent aussi un certain rêve, car ils croient en leur idéal. Ils commettent aussi un certain discours, car ils parlent aux autres. Mais en plus, ils fabriquent. Et c'est cela que je veux éveiller en vous. Ce n'est pas vous dire quel sera le lendemain de la Terre. Je ne veux pas non plus vous apporter un enseignement ou des précisions occultes. Je veux vous rendre capable de fabriquer le nouveau monde. À quoi cela sert que je vous parle d'une recette très compliquée et très sophistiquée en cuisine si je ne vous apprends pas d'abord à faire cuire un œuf? Apprenez à cuire un œuf et automatiquement, en ayant les rudiments du dosage de la flamme, du dosage du beurre et du dosage du temps durant lequel on doit laisser l'œuf dans la poêle, eh bien vous arriverez par là même à faire cuire n'importe quoi d'autre. Ensuite, le reste vous appartient. Les épices que vous y mettrez, les ingrédients que vous choisirez, cela vous appartient. Cela fait partie de votre libre arbitre, de votre liberté de créateur. Mais il faut connaître les rudiments. Et on ne fait aucune cuisson sans feu. Donc, nous revenons à la force. Qu'est-ce que la force? La force n'est donc pas, comme je viens de le dire, un principe d'attaque et de persévérance. La force sort des eaux de la tranquillité et du calme absolu. Ce qui fait qu'un être vraiment fort sera un être profondément calme, profondément centré. Quand vous avez besoin d'avoir recours à votre force intérieure, alors que vous n'en disposez pas de façon quotidienne et que vous devez créer un instant de force, n'essayez pas de vous convaincre du but de votre action. N'essayez pas de vous efforcer. Lâchez tout. Si vous avez un trouble nerveux ou un trouble émotionnel, c'est normal qu'il y ait une chute, un point de faiblesse. Et vous n'allez pas combattre ce point de faiblesse, cette défaillance, en éveillant un effort sur vous-même. Cela ne vous permettra pas de travailler tranquillement et avec équilibre. Vous devez quitter la zone où il y a la force apparente et la faiblesse apparente, pour vous mettre dans le calme absolu, au centre de votre être. Et au milieu de vous-même, au milieu de votre corps, vous tracez une ligne blanche, d'un blanc extraordinairement brillant. Une ligne qui se superpose sur le milieu de votre corps et qui va se précipiter directement dans le soleil central, ou dans votre âme, ou dans votre monade, ou dans votre maître, peu importe le point que vous choisissez, du moment que vous l'imaginez comme étant lumineux et divin. Et dans cet effort de concentration sur cette ligne et d'alignement par la même de vos chakras, vous ne connaîtrez plus l'angoisse ou la petite faiblesse. Ce qui ne veut pas dire que vous allez connaître immédiatement la pensée positive qui dira dans votre esprit « Tu es capable de ceci, tu es capable de cela, c'est le moment pour le faire. » Vous serez dans un neutre absolu. N'oubliez pas que la véritable force vient des eaux de la paix. Donc, n'attendez pas qu'après votre chute dans la faiblesse, il y ait en vous quelque chose de très positif, de très optimiste. Car si vous sentez cet optimisme vous envahir, il vous faut faire très attention, car lorsque l'énergie de l'optimisme sera brûlée, vous allez retomber dans le pessimisme. Et il se peut très bien qu'au moment où vous franchissez le seuil pour accomplir votre travail, l'énergie soit disparue et vous vous retrouvez face à votre travail avec tout votre pessimisme. Donc il ne faut pas attendre que l'optimisme se réveille. Il faut au contraire que vous sentiez en vous-même une neutralité parfaite. Qu'est-ce que je veux dire par neutralité? Je veux dire qu'en vous-même, vous devrez sentir à ce moment-là que la chose, soit accomplie ou pas, ne représente pas véritablement le point d'importance pour vous. Lorsque vous serez suffisamment détaché pour sentir cette véritable force, vous serez aussi par là même détaché de l'objet que vous voulez créer. Alors vous allez trouver que la chose est contradictoire, puisque si l'on veut accomplir la création de l'objet, eh bien il faut bien y croire, il faut bien y mettre du cœur, il faut bien être intéressé. C'est vrai. Mais en même temps que vous connaissez l'intérêt pour la chose, il faut connaître aussi du désintéressement. Comment est-ce que cela peut se conjuguer? Cela devient très compliqué, vous pouvez me dire. Cela se conjugue très facilement, je vous assure. Pour vous faire comprendre cela, j'ajouterai le seul mot qui soit porteur de l'état d'esprit qu'il vous faut connaître. C'est la foi. Lorsque vous dites que vous devez vous sentir intéressé par l'objet qui est à créer, le travail qui est à faire, je vous dis oui, c'est juste. Mais je vous dis qu'il vous faut aussi être désintéressé par l'objet. Donc comment faire pour être intéressé et pour être en même temps désintéressé? Il faut que le type d'intérêt que vous éprouvez au fond de vous-même ne soit pas de l'intérêt pour l'objet lui-même, et que cet intérêt passe par le besoin d'effectuer son destin parce que son destin passe par là, ou que ce soit le désir mental ou intellectuel, ou la jouissance de certaines énergies quand elles passent et l'on se sent bien. Votre intérêt doit être un acte de foi. Et si votre intérêt pour l'objet qui est à créer, le travail qui est à faire, si votre intérêt est un acte de foi, vous verrez que votre intérêt se trouve par là même très pur. Et vous pouvez à tout moment être désintéressé, donc détaché. Vous arriverez donc à balancer et à mesurer de façon très subtile et magistrale l'énergie qui vous permettra d'investir toute votre vie dans la chose, comme si vous étiez un mordu de la chose, et en même temps, vous saurez comment prendre la distance pour pouvoir le faire de façon intelligente, avec la force qui réclame un immense calme pour jaillir. Celui qui utilise la foi est un être pur dans sa conceptualisation. Celui qui utilise une fascination intellectuelle, morale ou religieuse pour son travail dans le Nouveau Monde, celui-là n'est pas un être pur. À tout moment, il peut être charmé par des contraires et finalement se retrouver malgré lui à faire le contraire de ce qu'il faut pour le Nouveau Monde. Et surtout, il sera capable à n'importe quel moment d'agresser son confrère. Et c'est ainsi qu'il y a des batailles de clochers, des batailles de groupes, et que l'on ne sait plus où l'on va. Et celui qui est sur la route, le bord de la route, là où s'alignent tous les profanes, lorsqu'il voit tous ces gens du Nouveau Monde, ou tous ces gens de la religion, ou tous ces gens des temples et des écoles initiatiques, lorsque le profane voit tous ces gens s'entre-déchirer, il dit, eh bien, je préfère ma liberté. Parce que je vois que même à l'endroit où l'on parle de Dieu et de la perfection, il y a autant de noirceur et de problèmes que chez les autres. Donc, quel intérêt est-ce que j'aurais à me lancer dans cette bataille? Si vous agissez avec la foi pour le nouveau monde, la foi pour le nouvel homme, vous serez ce centre de force, capable de ce calme profond. Comment agira la force à ce moment-là? Étant calme, étant centré, vous allez sentir en vous non seulement l'énergie, mais en plus la direction qui est à prendre. Celui qui ne sent pas la force en lui ne peut pas sentir la direction qu'il doit prendre, car la force est comme un rayon laser. Regardez un rayon laser. Il part d'un point et il va de façon incontournable sur un autre point. Et sa trajectoire est droite, impeccable. La force, c'est la même chose. C'est un laser qui sort du silence et qui va direct à son but. Et qui là se met à casser tout ce qui ne va pas. Se met à défricher tout ce qui est encombrant ou se met à pacifier ce qui a besoin de calme. Et de façon invisible, sans que même l'individu en ait conscience, ce rayon laser œuvre. Parce que ce rayon est intelligent. C'est comme une entité. Et cette entité n'a pas besoin qu'on lui dise ce qu'elle doit faire. Elle le fait, car elle vient non seulement de Dieu, mais aussi du Maître, qui lui l'a déjà programmé à un travail bien précis. C'est pourquoi les disciples qui travaillent dans un axe authentique aligné avec la force n'ont pas besoin de prévoir ce que seront leurs actions ou de ce que sera leur rayonnement ou de ce qu'ils devront faire dans tel ou tel cas ou dans tel ou tel pays ou région ou quoi que ce soit d'autre. Le mouvement les devance. De façon immanquable, le mouvement les devance. Et de façon extérieure, on croit que les choses viennent se présenter aux disciples. Mais en fait, il n'en est rien. Les choses ne se présentent pas aux disciples. Les choses attendent que le disciple arrive. Il y a donc cette énergie qui sort du silence, qui passe par le disciple, qui sort du disciple et qui va direct à son but. Et le disciple essaye de rattraper cette énergie qui est sortie hors de lui et qui déjà partout commence à faire des remous. Et le disciple se demande ce qui se passe, comment il va pouvoir faire, comment il va réagir. Il ne faut pas qu'il se pose ces questions. L'énergie ayant déjà tracé le chemin, au fur et à mesure du chemin, le disciple va donc rencontrer les étapes automatiquement. La plupart des personnes qui ont une action dans le monde ne fabriquent pas leur destin. C'est plutôt leur destin qui les attend. À partir du moment où ces personnes se sont alignées une fois en tant qu'axe de force, le plan s'est déjà déroulé et a déjà préparé partout sournoisement tout ce qu'il faut. Et les choses, les événements, les circonstances attendent que le disciple arrive jusqu'à l'endroit de l'événement. C'est pourquoi, dans de nombreux cas, le plan semble si bien préparé. Ce n'est pas parce que le disciple est très fort. C'est parce que l'énergie avec laquelle il a réussi à s'aligner, elle est très performante. Et elle n'aura fait qu'attendre que le disciple arrive. Donc, pour celui qui veut servir, il lui faut comprendre en lui-même s'il est véritablement en train de servir ou s'il est surtout en train de rêver et de fantasmer avec sa substance mentale. Lorsqu'il se rend compte de cela et qu'il fait le ménage, qu'il décide donc d'être un être concret et de porter l'idéal de façon fertile, il faut qu'il s'aligne avec la force et qu'il soit cette force. Comment est-ce que l'on s'aligne aujourd'hui avec la force? Il n'y a pas 36 façons de s'aligner avec la force. Et ce n'est pas quelque chose de compliqué, de très occulte ou de très kabbalistique. Il faut tout simplement poser un genou à terre et recevoir l'entier du plan, même si on ne connaît pas le plan. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, je veux dire qu'à la façon des chevaliers d'autrefois, il faut faire acte de révérence face au roi. Et la plupart des disciples, que sont les hommes, ne font jamais un acte de révérence face au roi du monde. Tout le monde s'improvise disciple parce que je vois ceci ou que je crois cela ou que je suis capable de cela. Et puis un jour, parce que j'entends parler des maîtres de la hiérarchie, eh bien je me dis et je dis aux autres que si je fais ceci et cela et que cela concerne le bien de l'humanité, c'est forcément parce que je suis dans l'axe de la hiérarchie. Faux, folie, orgueil, ignorance. Celui qui est dans l'acte de la hiérarchie, il sera parce qu'il aura accepté de s'engager vis-à-vis de la hiérarchie. Ce qui veut dire que vous pouvez travailler pendant des décennies et faire de façon apparente le bien ou quelque part quelque chose qui ressemble au plan, mais dans la mesure où vous ne vous inscrivez pas dans le temple, il n'y aura pas de réelle alliance avec la force du temple. C'est pourquoi observez comment est distribué le monde. Regardez ces axes de force, ces axes initiatiques. C'est en vertu de cette nécessité de l'engagement que sur la terre, tous les temples vous marient à leur énergie. C'est ce qui, de façon déformée, a obligé aussi l'homme à appartenir à un temple, appartenir à une religion et à subir l'initiation du temple ou le baptême de cette religion. Mais en fait, ce n'est pas pour appartenir au temple ou à la religion que ce phénomène a été créé. C'est uniquement pour que l'individu se sente engagé vis-à-vis du plus grand temple et qu'il soit véritablement reconnu dans le temple. C'est pourquoi, par exemple, dans l'Église catholique, tous les prêtres et tous les curés se dépêchent de baptiser les nouveau-nés. Et ils disent, si on ne le baptise pas, il perdra son âme. Bien sûr, la chose est dite de façon très déformée, dans une spiritualité complètement anéantie. Mais cependant, la raison sous-jacente, elle, est véritable. Il faut toujours être relié à un saint vibratoire, à une plus grande réalité. Et si l'on n'est pas relié à une plus grande réalité, on risque non seulement de patauger dans la réalité présente, mais on risque aussi fort de retomber dans une réalité inférieure. C'est pourquoi dans l'acte de l'évangélisation, les apôtres ont autant favorisé le baptême. Mais ce n'est pas pour faire de chaque individu un catholique et un homme qui ira à la messe et qui acceptera tous les dogmes de l'Église. C'est avant tout pour permettre à chaque individu d'être relié avec le temple principal, avec la plus haute réalité. Donc, pour vous-même, pour votre travail de disciple, pour vous qui voulez accomplir un acte encore plus conscient que celui simple qui motive le baptême, vous devez vivre cette cérémonie de l'engagement. Et je vous le demande. Si vous n'appartenez pas à des sociétés initiatiques où vous avez été baptisé, eh bien vous devez préparer votre propre cérémonie d'engagement. Et pour ceux qui aiment la chevalerie, car c'est de cela qu'il s'agit, eh bien imaginez quelque chose de très chevaleresque. Et un genou à terre, la main droite sur le cœur, prononcez votre engagement face à l'épée ou à un bout de bois que vous allez manier comme une épée et à une flamme. Et dites, Seigneur, je m'engage à te servir et à secourir tous tes enfants, ainsi qu'à bâtir le nouveau monde. Et ceci non pour ma gloire personnelle qui effectue ce travail, mais pour que ton royaume vienne soulager les enfants de la terre. Prononcez la phrase que je viens de vous donner, ou prononcez celle que vous vous composerez vous-même, celle qui vous plaît, peu importe. Mais prononcez cet engagement. Arrêtez de voler dans tous les sens et de rêver à propos du nouveau monde. Engagez-vous dans le nouveau monde. Nous ne pourrons rien faire si la foule qui est en bas va dans tous les sens et piaille sur tous les tons. Que peut-on faire avec une foule? Une foule qui gesticule dans tous les sens. Et les uns crient le nouveau monde de blanc, les autres crient le nouveau monde de bleu, et d'autres le crient orange, et d'autres le crient en do ré mi ou en fa sol. Et si tout le monde chantait enfin la même chanson, est-ce que ce ne serait pas mal? Au moins une fois. Il est très facile de chanter tous la même chanson. Et pas simplement parce que l'on aura réussi à mettre au diapason toute l'humanité. Une grande partie de la foule continuera à jacasser et à piailler. Ça, il faut vous y attendre, il faut le savoir. N'espérez donc pas l'alliance et l'alignement avec ceux qui vous sont placés de façon horizontale à côté de vous, c'est-à-dire les autres hommes, parce que c'est pour eux que vous allez travailler. Donc ne comptez pas sur eux. Première des choses, si vous voulez être un disciple actif, ne faire confiance à personne. Ne comptez sur personne. Si vous comptez sur les amis, sur le tellurisme positif ou négatif ou je ne sais quoi, vous ne ferez rien. Un homme qui s'assume est un homme qui ne compte que sur lui-même, même si il sait faire confiance aux autres, mais cette fois dans un acte d'amour et pas dans le sens où il délègue sa responsabilité et le poids de ses responsabilités sur les autres. C'est là où cela devient faux. Par contre, dans un acte d'amour, oui, faites confiance aux autres. Sentez-les capables de vous comprendre. Au lieu de dire, mais ils ne comprendront jamais, ils ne sont pas assez évolués, et puis j'ai vu leur thème, ou j'ai vu leur aura, et ça ne marchera jamais, il y a une cacophonie terrible dans leur être. Ça, c'est le manque d'amour. Ça, ce n'est pas le bon manque de confiance. Vous ne devez pas leur faire confiance sur ces points, c'est certain. Mais en même temps, votre confiance doit rayonner en tant qu'amour. Il ne faut pas attendre qu'ils comprennent. Il faut les imaginer comme étant capables un jour de vous comprendre. Et par là même, vous allez rayonner une énergie fantastique, une bénédiction extraordinaire sur leur cœur qui va favoriser la dilatation. Alors que si vous les croyez incapables, vos énergies vont par là même rester dans la périphérie de votre aura et n'avoir aucun mouvement initiatique sur les autres. Donc commencez par oublier que les autres sont des incapables. Pensez et ayez l'amour suffisant en vous-même pour imaginer que tous les hommes sont capables de comprendre Dieu, d'aimer Dieu et de concevoir sa grande éternité. Et ensuite, parlez. Ensuite, faites. Si vous les imaginez capables, vous ne les coincez pas dans un espace-temps où vous allez attendre qu'ils témoignent de leur compréhension. De la même façon qu'un paysan qui vient de semer quelque chose ne s'attend pas à ce que dans 10 minutes, la graine ait poussé et qu'il puisse tout de suite récolter son fruit. C'est complètement idiot et enfantin. Or, c'est l'erreur que commettent de nombreux disciples. Ils se disent, je lui parle et il ne comprend pas, c'est lui l'idiot. Eh bien moi je te dis non, c'est toi l'idiot. Tu es le paysan imbécile qui, parce qu'il vient de mettre une graine dans la terre, attend tout de suite d'avoir la tomate, sans laisser passer le temps, sans avoir soin de mettre de l'eau, sans avoir soin de laisser passer le soleil pour faire pousser la graine, puis faire mûrir le fruit. Le plus idiot, je te le dis, ce n'est pas lui qui ne comprend pas. Lui, il est authentique avec lui-même. Il te dit, tu es fou, je n'accepte pas, je ne te comprends pas, ça ne m'intéresse pas. Il est authentique et clair avec son propre monde et ses propres lois. Mais toi, tu n'es pas clair et authentique avec tes propres lois, si tu attends que l'on te comprenne tout de suite. Tu dois savoir qu'il faut un certain temps pour que la graine pousse et qu'il te faudra souvent repasser sur ta semence, y mettre de l'eau, des engrais, puis y mettre un tuteur pour que le plant pousse comme il faut et droit, qu'éventuellement il te faudra mettre une serre pour que le plant n'ait pas froid, ou quelques voilages pour que le plant ne soit pas brûlé par le soleil. Et surtout, il te faudra défendre ce plant de tous les rapaces. Et au jour promis, au jour du rendez-vous, tu pourras venir cueillir le fruit. Il sera là. Tous tes actes auront permis que le fruit existe. Sache que le fruit ne va exister que si tu commets les actes qui vont permettre l'existence de ce fruit. Et pour un fruit, exister ne dépend pas simplement du moment où tu plantes la graine. il faut aussi cultiver. Et beaucoup de disciples débutants négligent complètement cette deuxième phase de la création, cultiver. C'est ce qui se passe au cours d'une ère. Au début d'une ère, vous avez un nouveau message, de nouvelles lois, un nouveau rituel, une nouvelle énergie. Et puis vous avez toute l'ère pour cultiver cette énergie. Et il est attendu de vous qu'à la fin de l'ère, vous ayez pu récolter le fruit de cette culture pour passer à une nouvelle culture. De façon à ce qu'ayant passé à travers toutes les ères, vous ayez pu cultiver et manger tous les fruits du Seigneur. Et ainsi, ayant eu une nourriture complète, vous avez pu vous-même pousser de façon parfaite. Et vous serez devenu parfait, comme le Père qui est aux cieux est parfait. Donc, il est bien beau de vouloir servir, et c'est très louable. Il est bien beau de commencer à faire quelque chose, c'est très louable. Mais quel gaspillage il y a dans les groupes. Quel gâchis d'énergie, quel gâchis de substance mentale et de matière grise et de force et de rayonnement. Quel gâchis, et non pas parce que le temps est perdu, mais simplement parce que les choses sont mal accomplies par manque de connaissances occultes, manque de fonctionnement des lois et manque d'intuition, manque de sagesse, manque d'amour. Si nous pouvions véritablement compter sur tous les disciples qui croient dans le nouveau monde, nous aurions déjà créé le nouveau monde, alors que personne n'y aurait pensé, et que cela ne serait pas devenu une mode comme aujourd'hui. Si nous ne devions dépendre que de la bonne volonté, nous aurions déjà créé le nouveau monde. Or, la bonne volonté est une chose, mais la compétence en est une autre. Alors, puisque vous avez la bonne volonté, l'idéal, c'est un point que vous avez acquis. Votre évolution vous l'a permis. C'est bien. Mais ce qui est acquis est acquis. Et ce qui est acquis n'a plus besoin qu'on y travaille dessus. Travaillez donc sur ce qui vous manque pour que cet acquis devienne flamboyant. Travailler la compétence. Un être de Dieu est compétent. S'il n'est pas compétent, il n'est pas de Dieu, il est de son rêve. Et il n'est pas besoin d'être compétent pour rêver, il suffit d'être fou ou maladroit. Ne rêvez plus. Agissez. Et quand je dis agissez, créez l'action possible. Comment devenir compétent? Vous n'allez pas devenir compétent dès demain en retroussant vos manches et en faisant soit tout ce que je vous ai dit ou tout ce que vous disent les autres qui parlent aussi bien que moi. Vous allez devenir compétent, non pas en faisant ce que disent les autres, mais en devenant vous-même le point d'expérience de la chose qui est à faire. C'est-à-dire en expérimentant sur le terrain. Lancez-vous dans l'action, même si au début l'action est un peu chaotante, si elle vacille, si elle est incertaine, si elle titube, comme l'enfant qui fait ses premiers pas. Lancez-vous dans l'action, mais en ayant à l'esprit cette idée de compétence. Donc, quand vous serez dans l'action, si vous avez à l'esprit l'idée de compétence, vous allez par là même être extrêmement observateur. Extraordinairement observateur de ce que vous dites, de ce que vous faites, de ce que cela crée selon les personnes qui sont en face de vous, selon le sujet qui est à traiter et selon le genre de milieu dans lequel le sujet est traité. Ce qui fait qu'au fur et à mesure des expériences, et des manifestations, vous allez devenir un être de connaissance. Et vous pourrez savoir que vis-à-vis de telle personne, de tel type d'être humain, vous devez faire comme ceci, comme ceci, comme cela. Que vis-à-vis d'un groupe de tel ou tel rayon et de tel genre de travail, pour être véritablement compétent et apporter quelque chose ou casser véritablement la chose, il faut faire comme ceci, comme ceci, comme cela. Tout viendra naturellement. Et ceci, vous devez le comprendre vous-même. Dieu ne peut pas vous le faire comprendre. Comme Dieu ne peut pas vous rendre intelligent, c'est impossible. Cela dépend de vous, c'est votre travail, c'est votre liberté, c'est votre particularité, c'est votre brio. C'est ce qui fait justement de vous et de chaque être un Dieu. Si l'homme était simplement stéréotypé et que l'on avait déjà défini son type d'intelligence, son type de rayonnement, son type de brillance, eh bien il ne serait pas un dieu. Il serait l'homme ainsi créé, avec tel degré de rayonnement, tel degré d'intelligence, tel degré de pouvoir. Et si vous étiez de cette manière-là typé, vous appartiendriez forcément à des règnes que l'on dirait inférieurs. Car tous les règnes inférieurs sont des règnes typés, calibrés, mesurés. Il n'y a pas de notion de liberté. Aucune notion de liberté. Et c'est pourquoi les règnes inférieurs restent inférieurs. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'expérimenter l'étendue de Dieu ou de la puissance divine. Alors que l'homme fait partie d'un règne dit supérieur. L'homme est donc libre. Libre de se rendre intelligent ou de rester bête. Libre de se rendre compétent ou de rester maladroit. Libre de se rendre disciple ou de rester assassin. Bien sûr, il est dommage qu'il ait à ce point le choix entre le bien et le mal, entre devenir Dieu ou rester un être informe. Bien sûr, c'est tragique. Et il n'y a pas d'autre mot, c'est tragique. Mais dans toutes les grandeurs, il y a de la tragédie. Regardez le roi. Essayez de vous mettre une seconde dans la peau d'un roi et de vivre comme un roi. Un roi, c'est ce qui semble être de plus magnifique sur la terre. Il y a le prestige, le pouvoir. Il y a aussi toute une auréole mystérieuse, mythique. Quoi qu'en pensent les hommes, ils rêvent toujours d'un roi et de pouvoir être roi. Et pourtant, être roi, malgré toute la légende que cela peut traduire, être roi est quelque chose de très difficile. C'est un acte d'extrême humilité, un acte d'extrême abandon et d'extrême sacrifice. Un roi n'est pas un roi s'il ne se sacrifie pas pour le bien du nombre, donc du peuple. Un roi n'est pas un roi s'il ne se sacrifie pas par amour pour son peuple, d'où son humilité. Donc, être la chose la plus extraordinaire du monde veut dire qu'en même temps, l'on devra être la chose apparemment la moins extraordinaire, puisqu'il y aura le poids des responsabilités, le poids du sacrifice. Et c'est ça, la notion de tragédie qu'il y a dans la grandeur de l'homme, dans la grandeur de sa divinité. C'est que l'homme n'est grand que pour se sacrifier vis-à-vis du plus petit ou vis-à-vis du bien commun. Si tu as une grandeur, je te le dis, c'est celle-là. Ce n'est pas une autre grandeur. Ce n'est pas la grandeur pour toi-même, le brio pour toi-même, le brio de l'état que tu as atteint. Si tu fais des conceptions de cette façon-là, tu es dans l'erreur complète et totale. Le plus grand est en même temps le plus petit. C'est celui qui est roi au ciel qui viendra être sur la terre le balayeur des rues. Ce qui ne veut pas dire que tous les balayeurs sont de très grands initiés. Ne confondez pas ma parole avec des aberrations. Je dis simplement que si le roi des rois voulait prendre un corps et une fonction sur la terre, il serait le balayeur de vos rues qui sont dans votre inconscient, dans vos désirs, dans vos émotions. Il ne serait pas celui qui vient et qui attend d'être reconnu. Il s'en moque complètement d'être reconnu, car ce n'est pas pour lui-même qu'il vient, c'est pour vous. Donc il n'attend rien, mais il donne tout. Et c'est ce que le disciple doit comprendre, et c'est l'acte d'humilité et de sagesse qu'il doit accomplir s'il veut être utile pour le maître. Et c'est ce qu'il ne fait pas lorsqu'il attend d'être compris, lorsqu'il attend que sa parole soit reconnue comme vérité et qu'elle soit suivie par les hommes. Quand il attend cela, il ne fait pas l'acte du roi des rois qui ne vient pas pour lui-même, mais qui vient pour les autres. Alors si tu as quelque chose à donner, ne le donne pas comme celui qui attend d'être reconnu, car tu ne donnes pas pour toi-même, tu donnes pour l'autre. C'est donc l'autre qui va passer avant toi. Donc le fait que tu sois reconnu, entendu ou pas, cela n'a aucune importance puisque tu ne donnes pas pour toi-même. Dépouille-toi de ton ego, des derniers relents de ton ego. C'est capital si tu veux imiter le roi des rois et travailler avec lui et être reçu par lui. Car il ne reçoit que ses semblables. Et lorsque tu auras atteint ce dépouillement, automatiquement, tu deviendras crédible. À l'instant où tu t'y attendras le moins, à la personne à laquelle tu n'as jamais parlé, tu pourras projeter une pensée semence, une énergie qui va sortir hors de toi. Et alors tu comprendras pourquoi Jésus a dit à la femme qui s'était accrochée à sa robe que c'est ta foi qui t'a sauvé, non pas moi. Comment comprendre cette situation? Parce que si tu ne comprends pas ce que je te dis, tu ne comprends pas la situation de Jésus. Il y avait une femme dans la foule, et cette femme a touché la robe du Christ. Et automatiquement, elle a crié au miracle, se sentant libérée de son fardeau. Et Jésus, qui ne l'avait même pas remarqué, même pas senti, a été l'endroit et la cause de ce miracle. Et il lui a dit, ce n'est pas moi qui t'ai sauvé, c'est ta foi qui t'a sauvé. Comment comprendre la réalité occulte de cette phrase, de cette situation? Toute la réalité occulte de cette phrase et toute la vérité occulte réside dans le fait que Jésus n'était pas parmi les hommes pour lui-même, mais pour les autres. De ce fait, il était entièrement à la disposition des autres et non de lui-même. De ce fait, il était comme un pain blanc qui se donnait à manger, qui se livrait à la bouche de tous ceux qui étaient capables de s'approcher et de mordre dans sa mie. Alors que celui qui veut être cru, celui qui parle avant tout pour lui-même, celui qui travaille pour lui-même, même si cette chose ne lui apparaît pas comme étant vraie, mais cependant s'il veut être cru, je lui dis, si tu veux être cru, c'est parce que tu travailles pour toi-même, même si l'action et la raison en sont inconscients. Il faut donc comprendre que l'individu doit vivre de manière constante, de façon consciente, et qu'il ne laisse jamais l'occasion à son inconscient de prédominer, de manipuler les choses qu'il a à donner. Si tu veux être cru, tu travailles pour toi-même. Donc tu n'es pas un pain offert aux autres. Tu es une galette plate qui se casse dans les doigts de ceux que tu sembles ou que tu crois servir. Et ils n'ont même pas le temps d'apporter la galette à la bouche que déjà elle est en poussière parce qu'elle n'est pas du vrai pain. Alors si tu veux être du vrai pain, une vraie mie venant de Dieu, travaille pour les autres et non pas pour toi-même. Ce qui fait que tu n'auras plus peur en toi d'avoir de l'écoute ou d'avoir du public, d'avoir des résultats, et que tu n'es qu'un chaînon, un petit chaînon d'une immense chaîne.